9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et c'est en ce 1er octobre 2022 que Maître Serran vous souhaite la bienvenue, camarades auditeurs et auditrices. Bienvenue dans votre émission de droit qui est d'utilité publique. Et oui, toutes les semaines, nous sommes là pour tenter de résoudre vos problèmes. Problèmes conjugaux, monsieur est insupportable, madame est pénible, alors divorcée. Problèmes professionnels, problèmes de voisinage, musique trop fort toute la journée, voire toute la nuit. Bref, des problèmes, rien que des problèmes. Faut croire que la vie n'est que problème. Eh bien oui, la vie n'est que problème, mais Maître Serran est peut-être la solution. Et aujourd'hui, nous évoquerons les protections, mon cher Philippe, pas celles dont
pas celles dont vous pensez, je vous vois venir,
mais les mesures drôle. De protection telles que tutelle, curatelle, etc. Mais permettez-moi avant tout, mon cher Philippe, de souhaiter surtout la bienvenue à un petit bonhomme qui a rejoint la planète Terre récemment. Bienvenue à mon neveu qui vient agrandir la famille Serran, un petit bout de chou prénommé Adam. Mais mes pensées vont aussi et surtout pour le père de cet enfant, mon frère, hein, complètement gaga de son fils. Mais sait-il que les nuits seront désormais très courtes? Sait-il qu'il devra, comme tout bon père moderne, mettre la main à la pâte, pâte qui sera dans le meilleur des cas de couleur marron et qui sera également très souvent de couleur improbable, car un enfant, oui, ça fait caca très souvent. Sait-il qu'à la moindre fièvre, c'est une boule au cœur qu'il aura? Et enfin, sait-il que cette boule au cœur ne le quittera jamais? Mais quel que soit l'âge de l'enfant, c'est ce qu'on appelle le kebda. Eh bien, vous savez quoi, mon cher Philippe, ça donne envie de faire des enfants. Et en portant cet enfant, j'ai regardé amoureusement mon épouse. J'ai vu dans le regard de Madame Serran qui disait « n'y pense même pas ». Bon, vous me direz, j'ai 5 enfants, là, Ibalek. On va peut-être s'arrêter là. Mais oublions notre petite personne pour évoquer l'actualité de la semaine. Et tout d'abord, la fragilité de nos hommes politiques face au pouvoir grandissant des femmes. Il aura fallu une déclaration bienveillante de Sandrine Rousseau, rapportant des propos tenus par une ancienne compagne de Julien Bayou qui évoquait des violences psychologiques pour que ce dernier annonce sa démission du poste de secrétaire national alors qu'aucune plainte n'a été déposée contre ce dernier. L'ère du temps est ainsi, on passe d'un extrême à un autre. On a accepté trop souvent la violence des hommes à l'égard des femmes. D'ailleurs, saviez-vous qu'en 1810, le devoir conjugal était une obligation qui rendait le viol inconcevable entre époux, et ce n'est qu'en 1990 que la Cour de cassation a pour la première fois reconnu le crime de viol entre époux, et c'est une bonne chose, sauf que dans l'affaire Julien Bayou, on n'en est pas là, et il n'y a même pas eu de plainte contre ce dernier. Les dérives d'un côté comme de l'autre ne sont pas acceptables, et il faudra encore des décennies pour qu'un certain équilibre puisse s'établir dans ce domaine. Actualité internationale maintenant, je ne sais pas pour vous mon cher Philippe, mais pour ma part, j'ai suivi l'intervention de Vladimir Poutine consacrée à l'accord sur l'intégration de 4 régions d'Ukraine à la Russie. En même temps, la Russie ne fait que reprendre ce que l'Union soviétique a bradé. Allez, que vous soyez pro-Poutine, pro-Zelensky, ici on accepte tout le monde. Vous êtes donc invité à appeler le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de monsieur Philippe Robichon, tsar de toutes les radios. À vous, maestro.
Maître Serran sur Beurre FM. Alors, c'est pas la main à la pâte, hein, c'est la main à la poche.
C'est la main à la poche.
Parce que les enfants, ça coûte cher.
Ah, aussi.
Surtout, plus ça grandit.
Ah, ben, c'est exponentiel.
Là, donc, votre frère, c'est son premier enfant?
Non, c'est pas son premier.
Oui, vous m'inquiétiez, parce que...
Non, c'est pas son premier, mais il a oublié, en fait. C'est ça, le truc. C'est-à-dire
il a oublié quoi?
Ben, il a oublié que c'était quand même galère d'avoir des enfants.
Ben, ça dépend. Ouais. À un certain âge, on a oublié.
C'est son troisième. Mais, voilà, c'est-à-dire que... Quand on reprend tout ça, il faut se réveiller, les biberons, les ceci, les cela, au secours, quand même. Hein. Mais bon... Il est courageux, faut croire.
Ah ouais, il est motivé. Hein.
Ah bah carrément même.
Faut la santé. Alors on va parler des différents modes de protection juridique ce matin. Les tutelles, les curatelles, les sauvegardes de justice. On comprend pas toujours la différence. On parle toujours de la protection de la personne qui est placée dans ce mode de protection, mais souvent c'est quand même un peu abusé. Cette personne-là, elle se retrouve sans du tout plus de liberté.
Alors tout dépend du degré de protection, et vous avez raison de l'évoquer, le degré le plus fort étant la tutelle. Alors d'abord, pourquoi il y a ces mesures de protection? C'est parce qu'on considère que soit il y a défaillance dans les capacités intellectuelles, soit il y a un handicap physique lourd qui fait que la personne ne peut pas évidemment s'occuper ni d'elle-même, ni de ses biens, ni de son entourage, éventuellement de ses enfants. Donc on a ces mesures de protection. Donc là, la protection la plus complète, certains diront la plus lourde, c'est la tutelle. La tutelle, vous ne pouvez pas faire grand-chose sans l'aval de votre tuteur. Donc, il faut savoir que cette mesure de protection, elle est prononcée par un magistrat. Ce magistrat, il peut être saisi par le premier concerné, si tant est qu'ils sont en capacité d'eux. Donc, il s'agit du juge des contentieux de la protection, ce qu'on appelait le juge des tutelles.
Ça s'appelle plus juge des tutelles.
Non. Comme le tribunal de grande instance qui s'appelle maintenant tribunal judiciaire. Donc, faut croire que voilà, on a des personnes qui n'ont rien d'autre à faire qu'à travailler sur ces domaines-là.
Donc, le juge des tutelles, donc. C'était lui qui.
C'était
compétent.
C'est une compétence exclusive de ce magistrat. Et ce magistrat va être saisi, encore une fois, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un proche de l'intéressé, ça peut être l'intéressé lui-même, et il va être saisi d'abord sur la base d'un certificat médical. Mais c'est pas le certificat médical rédigé par le médecin du coin, donc ce sont des médecins qui apparaissent sur une liste qui est communiquée par le procureur de la République, qui est communiqué également par le tribunal, et c'est sur la base de ce certificat médical que la tutelle peut être prononcée. Donc c'est vrai que on va entre guillemets vous mettre entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il y a plein d'actes que vous ne pourrez plus accomplir. On peut comprendre pour certains actes, la vente de biens immobiliers par exemple, ça peut à la limite s'entendre et se comprendre, mais même des actes assez classiques, la signature d'un bail, il faut que l'intéressé, en tout cas le tuteur soit informé, la vente d'un véhicule, il faut en informer le tuteur, vous souhaitez vous marier, il va falloir informer le juge des tutelles. Donc c'est vrai que tous les actes de la vie civile, vous êtes obligé entre guillemets de déballer un peu votre vie, et dans l'hypothèse où vous seriez amené à accomplir un acte sans l'accord soit du juge, des tutelles, soit du tuteur lui-même, il faut savoir que la partie adverse avec qui vous avez accompli cet acte, je ne sais pas, encore une fois, la vente d'un véhicule par exemple, peut demander la nullité de cet acte, ou le juge peut obtenir la nullité de cet acte. Donc c'est important de vérifier, quand vous êtes entre guillemets en transaction, de vérifier si la personne est placée sous tutelle ou pas, et on peut le savoir comment ça apparaît sur l'acte d'état civil, sur l'acte de naissance de l'intéressé. Ah, c'est une mention qui apparaît.
Donc, tuteur, c'est rémunéré ou pas?
Alors le
ou c'est si, bénévole.
Voilà. Si il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que en règle générale, quel que soit le mode de protection. Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, ce sont des modes de protection moindres que la tutelle et que ce soit la curatelle ou sauvegarde de justice, mais la personne désignée, très souvent, autant que faire se peut, c'est un membre de la famille ou un proche de la famille. Quand c'est un membre ou un proche de la famille, il n'y a pas de rémunération, si ce n'est que vous utilisez l'argent, les fonds de la personne protégée pour ses propres dépenses concernant cette personne. C'est pas pour vous rémunérer. Mais il arrive parfois. Alors, je vois que vous faites un hochement de tête. Oui, il arrive parfois effectivement.
J'imagine que ceux qui ont des grandes familles,
bien sûr, on a parfois des dérives.
Ouais. On a parfois des dérives.
Mais il faut savoir que vous devez, quand vous êtes désigné tuteur, quand vous êtes un membre de la famille, vous devez établir, j'allais dire un rapport, c'est un truc assez succinct, hein, l'argent est sorti, l'argent est rentré, que vous transmettez au juge des tutelles, à charge pour ce magistrat de vérifier si tout est carré. Donc pour voir s'il n'y a pas évidemment de fraude, si on ne profite pas de la faiblesse de l'intéressé. Mais en dehors de proches ou de membres de la famille, quand pour une raison lambda, le juge considère que personne n'est ou serait capable d'accomplir cet acte, on a des institutions, on a des professionnels de la tutelle, et ça peut sembler curieux puisqu'on se dit bon, le professionnel de la tutelle a priori c'est très carré, c'est très contrôlé. Les retours qu'on a, nous, dans certains dossiers, c'est ça concerne surtout les professionnels de la tutelle. C'est-à-dire que très souvent, il y a une sorte de blackout. C'est-à-dire qu'on ne... je veux pas généraliser, mais souvent quand même, ils donnent pas d'informations aux membres de la famille de l'intéressé. Ils sont très opaques sur les dépenses réalisées. On a parfois eu des affaires de détournement d'argent. Donc c'est vrai que ces professionnels sont pas toujours, entre guillemets, des professionnels et profitent un peu de la situation. Et pour peu, évidemment, que les membres de la famille se désintéressent de la personne placée sous tutelle, on a eu des dossiers où on a des comportements abusifs de la part de ces professionnels, encore une fois, entre guillemets, de la tutelle. C'est terrible parce que faut bien comprendre la situation. Vous voyez, moi j'ai une jeune demoiselle qui est placée sous tutelle pour laquelle on engage une procédure de divorce. Simplement pour demander le règlement des frais d'huissier, il y en a pour à peu près 60 euros, vous êtes obligé de passer par le tuteur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas contacter l'intéressé pour dire voici la facture, vous êtes obligé de passer par le tuteur. Donc on parle de 60 euros.
Alors qui c'est qui vous a recruté dans ce cas-là?
C'est cette demoiselle avant qu'elle soit placée sous tutelle.
D'accord.
Et c'est pour ça, je vous dis, après, on arrive, entre guillemets, à savoir s'il y a eu un changement dans le comportement et autres. Et quand c'est comme ça, parce que la personne elle-même vous dit pas spontanément « Bonjour maître, hier j'ai été placé sous tutelle ». Donc quand c'est comme ça, faut pas hésiter évidemment à commander l'acte de naissance de l'intéressé. Et à partir du moment où on voit que la mention apparaît, notre obligation est de contacter directement. C'est-à-dire que moi, mon interlocuteur maintenant, c'est le tuteur et pas directement, entre guillemets, ma cliente. Et pour, je lui dis, la moindre broutille est là, en l'occurrence, pour la somme de 60 euros, ce qu'on appelle les frais de signification, vous envoyez la facture au tuteur et c'est le tuteur qui s'occupe de ça. Donc c'est vrai que c'est une mise sous contrôle. Alors je dis pas que c'est injustifié, hein, parfois c'est totalement justifié, mais c'est quand même une mise sous contrôle de la personne qui peut pas bouger un orteil sans obtenir le feu vert de son tuteur.
C'est pas la même chose avec le curateur en fait.
Non, encore une fois, on a des degrés. C'est-à-dire que le curateur, alors pareil, va exercer un certain contrôle, mais il y a beaucoup d'actes que vous pouvez faire sans avoir l'obligation de solliciter l'accord du curateur. Donc c'est beaucoup plus souple. En dessous, vous avez la sauvegarde de justice, et c'est encore plus souple. La sauvegarde de justice, tout comme la curatelle. En règle générale, la curatelle et la sauvegarde de justice, c'est quand vous êtes trop dépensier.
Vous contrôle.
Bah oui, vous avez alors vous percevez un salaire ou des prestations, peu importe, mais vous dépensez votre argent dans n'importe quoi, et à la fin, vous vous retrouvez évidemment en difficulté. Donc vous avez besoin, entre guillemets, d'être cadré, mais ça reste encore assez souple. On vous laisse quand même sortir un peu la tête de l'eau, on vous laisse respirer. La tutelle, c'est tout autre. Il faut savoir aussi que, d'abord, ces décisions sont limitées dans le temps. Vous avez une mesure de protection donc qui dure 5 ans, qui peut aller à 10 ans si on constate que la personne n'est pas évidemment en état ni demain ni après-demain, compte tenu de la nature de son handicap, par exemple, de pouvoir retrouver ses capacités. Mais sinon, c'est 5 ans éventuellement renouvelables. Et puis le juge peut également descendre de degré, c'est-à-dire que vous pouvez passer de la tutelle à la curatelle, à la sauvegarde de justice, en fonction, là encore, de l'échange que vous aurez eu avec le magistrat. Et si on considère qu'effectivement cette mesure de protection n'est plus nécessaire, bah dans ce cas-là, il n'y aura pas de renouvellement.
Et si on veut en sortir avant les 5 ans, par exemple, on peut ou pas?
Alors, on peut formaliser, on dépose une requête où vous passez par l'intermédiaire d'un avocat, car l'avocat n'est pas obligatoire dans ce type de procédure. Donc, rien n'interdit de demander au magistrat de réexaminer votre requête. Alors, honnêtement, très souvent, quand un magistrat a prononcé une mesure de tutelle ou de curatelle, peu importe, il est rare que celui qui est chargé de gérer cette tutelle ou cette curatelle, donc le curateur ou le tuteur, il est rare qui établissent un rapport pour dire oui, ok, entre guillemets, la mesure n'est plus utile. Très souvent, on considère que c'est, je vais pas dire un caprice, le mot est peut-être un peu fort, de l'intéresser, mais le magistrat donne pas droit à l'intéresser, et puis on maintient la tutelle et on vous demande de revenir au bout de 5 ans et on verra si au bout de 5 ans vous méritez que cette tutelle soit rectifiée ou pas.
Bon, on peut être sous tutelle à partir de quel âge?
Il faut être, c'est à partir de la majorité.
Il faut être majeur.
Voilà, quand vous êtes mineur, vous relevez de la compétence exclusive de vos parents. Alors, sauf mesure de protection particulière si vous avez affaire à des parents violents. Mais la tutelle, c'est à partir de votre majorité. Et après, il n'y a pas d'âge, évidemment. Jusqu'à la fin de votre vie.
01 53 48 3000. Si vous voulez poser une question à Maître Serran ce matin, mais c'est très simple, vous appelez le standard de Beurre FM, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran en direct tous les samedis, 9h, 10h, et vous posez vos questions en direct au standard, au 01 53 48 3000. On a Ilham qui vous appelle, Maître Serran. Ilham, bonjour.
Allô, bonjour.
Bienvenue, Ilham.
Merci. Alors, j'ai une petite question. En fait, je voulais faire les papiers pour ma mère à cause du visa. Et je voulais savoir est-ce qu'il y a une possibilité ou pas et c'est quoi les démarches qu'on doit faire.
Alors, vous en êtes à quel stade? Votre maman est au pays. Vous voulez solliciter un visa, c'est ça?
Non, j'ai l'habitude de lui faire le visa, son problème et tout. Mais je voulais faire ses papiers comme ça pour éviter les visas parce que... C'est les démarches maintenant, c'est
l'enfer. Mais alors il y a pas de texte particulier pour dire que si je suis ou si je vis en Algérie qui permettrait à la France de vous obtenir un titre, l'équivalent d'un titre de séjour sur le territoire français. Moi, c'est souvent une question qui m'est posée en disant on aimerait un document qui permettrait de venir quand on a envie.
D'accord.
Pour éviter de refaire toutes
chaque fois les formalités.
Voilà, toutes les formalités, ce qu'on peut comprendre parce que c'est une galère pas possible. Mais on a des titres particuliers, par exemple, les personnes qui ont travaillé sur le territoire français et qui ont un statut de retraité peuvent obtenir un titre en qualité de retraité. Mais quelqu'un qui aurait vécu toute sa vie au pays et qui n'aurait pas d'affinité particulière, si ce n'est avoir des enfants sur le territoire français, il n'y a pas de démarche particulière pour obtenir un visa qui permettrait de venir quand j'ai envie et de rester le temps que je souhaite. Votre maman a toujours vécu au pays ?
Oui, oui.
Bon, elle est seule ou elle est...
Elle est seule. Et c'est moi, en fait, que... Je suis sa responsable, c'est moi qui envoie l'argent, je la déclare pour mes impôts.
D'accord, bon, ça c'est une bonne chose. Après, il y a une option, mais encore une fois, c'est parfois un peu alambiqué et puis ça donne lieu souvent à bataille. C'est-à-dire que souvent on a le ou les parents qui par définition ont un certain âge, qui pour certains ont aussi des problèmes de santé, qui sont totalement isolés au pays. Qui viennent comme des touristes lambda, donc avec un visa classique, et qui se maintiennent sur le territoire français en invoquant ces motifs-là, en disant « je suis de santé fragile, au pays je suis seul, et donc j'ai un enfant, deux enfants, peu importe, qui sont là et qui peuvent éventuellement, j'allais presque dire, se porter garant, c'est-à-dire s'occuper donc du père ou de la mère. » Donc il y a cette carte-là qui serait jouable. Mais si votre question c'est est-ce qu'il y a une sorte de visa ou de titre qui permettrait à votre mère de faire des allers-retours tranquillement, non. Compte tenu de ce que vous me dites là, compte tenu du fait qu'elle a toujours vécu au pays, ça n'existe pas. Le côté, la possibilité, ce serait d'obtenir un visa, encore une fois, en qualité de touriste, et une fois qu'elle a le pied sur le territoire français, éventuellement, de saisir les autorités préfectorales sur la base des éléments qu'on vient d'évoquer.
Le visa permanent, ça n'existe pas.
Mais il y a des conditions particulières. C'est-à-dire, encore une fois, quelqu'un qui n'a aucune affinité avec la France, si vous n'avez jamais travaillé sur le territoire français, si vous avez toujours vécu au pays, Il y a rien qui justifie qu'on puisse vous remettre ce type de visa. Alors c'est dur, hein, mais on peut le comprendre. Et on peut le comprendre et on peut l'entendre. Encore une fois, il faut les personnes qui bénéficient de ce type de documents sont des personnes qui ont passé une partie de leur vie sur le territoire français et qui après, pour des raisons lambda, ont décidé de retourner au pays. Mais entre guillemets, on va ressortir leur dossier. Si vous venez avec un dossier totalement vierge en disant voilà, j'ai toujours vécu dans mon pays d'origine, on considère que vous ne méritez pas, on va mettre des gros guillemets, ce type de document administratif, ce type de visa.
Ouais. Ok, bah merci beaucoup.
Merci, Ilham.
Merci à vous pour votre appel.
Merci, bonne journée.
Merci. Bonne journée. Karim est à Montreuil au 01 53 48 3000. Karim, bienvenue. Alors, Karim est reparti dans sa cuisine. Voilà, on va accueillir. Bah oui, on va accueillir Samia. Samia, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, Samia. Alors, Samia.
Question juridique par rapport à une renonciation de succession. Alors, je vous explique rapidement. Mon papa, en fait, a son papa qui est décédé à la RACM. Et il a sa maman qui est toujours vivante. Ça fait un an qu'il est décédé. Et aujourd'hui, on a reçu un papier, en fait, venant de ses frères qui n'ont pas de contact avec eux, donc par courrier, nous demandant, en fait, de remplir un CERFAS pour envoyer au tribunal judiciaire. Concernant une renonciation de succession.
D'accord.
Donc, en fait, c'était un papier où il y avait marqué Monsieur le greffier du tribunal, je renonce à ma succession, dudit Stéphane, à la nana. Et en fait, je voudrais savoir ça engage à quoi et pourquoi, en fait, mon papa est concerné.
D'accord.
On pense que sa maman est toujours vivante et que, marié sur le régime de la communauté, c'est elle qui bénéficie de tout. De son papa.
Ouais. Alors d'abord, effectivement, si votre maman est encore vivante, il y a beaucoup de précipitation de la part de ce membre de la famille. Mais ce document est effectivement un document qui existe, c'est-à-dire qu'il arrive parfois que des personnes renoncent à une succession. Alors pourquoi est-ce qu'on renonce à une succession ? D'abord, il faut connaître la teneur de cette succession, parce qu'il arrive aussi que la succession soit totalement négative, c'est-à-dire que vous pouvez si vous acceptez une succession et que cette succession n'est composée que de dettes, eh ben vous serez tenu de rembourser les dettes qui ont été contractées par l'intéressé. Donc c'est vrai.
D'accord.
Qu'avant d'accepter ou de refuser, encore faut-il avoir la liste des éléments qui constituent, alors des éléments positifs, négatifs, peu importe, mais après vous verrez si le solde est positif ou négatif, mais encore faut-il connaître le contenu de cette succession. Donc il faut jamais évidemment
signer un papier qu'on nous envoie, d'accord.
Voilà.
Parce qu'en fait, mon papa, il a signé déjà un premier document pour mettre sous tutelle sa maman, au profit de ce frère qui nous envoie ces documents. Et à chaque fois, ce qui m'embête, c'est qu'il nous envoie que le document concernant, en fait, vous savez, le nom de mon papa, sa date de naissance.
Mais votre maman,
il nous envoie jamais le dossier.
Votre
non, en fait, c'est ma grand-mère, c'est la maman de mon papa.
D'accord.
Ouais, c'est la maman de mon papa, elle est sous tutelle, d'accord, en fait, du frère à mon papa, d'accord, et c'est lui qui s'occupe de tout, et donc voilà, donc mon papa a signé pour la tutelle, donc au profit de son frère. Et là, son papa est mort depuis un an, sa maman, elle est toujours vivante à mon papa, donc c'est elle que, pour lui, il n'a rien à avoir de son père.
Mais le d'abord, avant de discuter de cet aspect-là, d'après les informations que vous pouvez avoir, c'est une succession qui, entre guillemets, est ou serait positive ou pas, ou alors c'est un paquet de dettes.
En fait, il est non, vraiment pas, il a aucune dette, ça c'est sûr.
D'accord.
Mais il a des biens en Algérie, en France, il était locataire, une petite retraite que sa femme elle a maintenant. Et c'est tout. Après, voilà, sa femme, elle a la retraite de elle et de son mari défunt. Et elle est sous tutelle. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Après, on ne peut pas en savoir plus. Hier, mon papa m'a demandé s'il pouvait contacter un notaire ou, on ne sait pas auprès de qui se renseigner, vu que c'est son frère qui gère tout, en fait, vu qu'en plus, elle est sous tutelle. Donc, c'est lui qui choisit les notaires. C'est lui qui envoie les papiers au tribunal.
Ouais, c'était le thème de l'émission de tout à l'heure.
Oui, j'ai entendu, voilà. La curatelle, la tutelle.
Que s'il y a, entre guillemets, un manque d'information, s'il y a des doutes sur la manière dont tout ça est géré, ouais. Vous avez, en tout cas les membres de la famille, ont aussi la possibilité de se rapprocher du magistrat pour dire, écoutez, il semblerait qu'il y a un problème, et le juge va évidemment vérifier si la personne qui a été désignée comme tutrice, si elle fait, on va dire, son boulot correctement.
Correctement.
Si elle ne profite pas de la situation ou de la faiblesse de la personne ouais. protégée, pour, pardon pour l'expression, s'en mettre plein les poches. Vous voyez, donc, ouais. Ça, c'est aussi vérifiable. Et les magistrats ouais. sont quand même sensibles à cet aspect-là. Donc, d'ailleurs, c'est leur rôle et leur obligation de vérifier si tout est carré. Ensuite, concernant ce document qu'on vous invite à signer.
À remplir,
voilà, ouais. bien évidemment. Il s'agit pas de renoncer à une succession, voilà, comme ça. C'est-à-dire que avant non. de, on peut renoncer à une succession à partir du moment où on me dit, voilà, la succession, c'est telle ou telle chose. Après, vous dites oui ou vous dites non. Mais, vous
mais demandez... là, sur le papier, il y avait marqué, sur les legs suivants, mais il n'y avait rien marqué.
Ah bah oui, non mais c'est voilà, on peut pas vous demander de signer en blanc comme on dit, c'est-à-dire que signer un document, vous savez même pas de quoi pourrait être voilà, constituée exactement. La succession, ça c'est pas possible. Alors vous pouvez évidemment entrer en contact direct avec cette personne, vous pouvez vous adresser à un avocat qui entrera en contact avec cette personne, mais bien évidemment, on ne peut signer un document qu'en connaissance de cause, et on ne voilà. signe pas comme ça ce qu'on appelle
un blanc-seing. Oui, mon père, il est un peu à la vieille école, alors il m'a dit,
j'entends
c'est
bien.
Quoi sa succession ? Il m'a dit, mais ça reste mon père. Enfin, pour lui, c'était comme s'il renonçait à être le fils de son père. Il m'a dit, j'ai rien à avoir de papa, vu qu'il est marié, enfin, elle est mariée sous le régime de la communauté, donc il comprend pas ça concerne quoi. Alors apparemment, après, il s'est renseigné un peu auprès de ses autres frères et ils lui ont dit peut-être une assurance vie qui D'accord. était avec les bénéficiaires des enfants. Et en fait, il faudrait renoncer peut-être au profit de sa maman.
Non, mais enfin, ce serait... voilà, il n'y a pas forcément un piège dans l'histoire. Mais encore une fois, avant de remplir et de signer un document, puisque ouais, une fois que c'est rempli et signé, voilà, oui. c'est terminé. Vous voyez, on ne peut plus revenir
voilà,
en arrière.
Exactement.
Donc avant de remplir ce type de document, à minima... on doit demander à être informé du contenu de cette succession, du but de la signature de
après,
ce document.
On a reçu un message WhatsApp qui nous disait faut qu'on tous on signe parce que dans tous les cas, il n'est pas solvable, il n'y a rien à avoir. Mais bon, c'est plus le geste quoi qui.
Non mais voilà
qui
après.
Un peu mon papa.
Vous savez, vous pouvez voilà croire sur parole. Ouais, s'il dit écoutez,
non, pas du
voilà,
tout,
on
non,
est d'accord.
Pas du tout.
Mais
non, pas du tout.
Mais La prudence voudrait bien évidemment que qu'avant de signer quoi que ce soit, vous demandiez une liste très précise du ou des biens. Alors en positif, en négatif, peu importe. Mais
et
au
ça,
moins...
alors on peut la demander à qui
ah non, mais à l'intéressé lui-même, c'est à celui D'accord. qui vous envoie ce document-là.
D'accord. Mais en France, bon là je parle pas d'Algérie, mais en France les biens, même s'il a rien ou même s'il a quelque chose. Ça va normalement à son épouse, vu qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté,
non ? Ah, dans un
non
premier temps, oui, tant que l'épouse est...
Elle est juste sous tutelle.
Alors, vous voyez, la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire que ça revient à l'épouse, sauf qu'à partir du moment où elle est placée sous tutelle, c'est le tuteur, qui va ouais. gérer cet aspect-là. Ce sera à lui D'accord. de dire si... oui, encore une fois, c'était l'émission de ce matin. C'est-à-dire que la personne placée sous tutelle, on va, entre guillemets, la mettre de côté. C'est-à-dire que celui qui va signer les documents, celui qui va décider d'affecter tel ou tel bien, c'est le tuteur, et pour certains biens, avec l'accord du juge des tutelles. Donc, il y a cet aspect-là. C'est-à-dire si elle est placée sous tutelle, évidemment, c'est pas cette personne-là directement qui va pouvoir en bénéficier.
D'accord.
Mais encore une fois, hein, vraiment, le truc important, c'est de savoir ce qu'il y a dans cette succession. Voilà, donc,
ouais,
qui vous donne une liste
c'est ça,
très
c'est
précise.
C'est le mystère. Ouais.
Bah, c'est simple. Hein, s'il fait pas l'effort de lister tout ça, et ben vous signez aucun document. Comme ça, il n'y a pas de risque.
Okay. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit à mon papa. Bon,
bien
merci.
Fait,
merci de m'avoir éclairé.
Voilà, merci de votre appel,
merci
Samia.
Merci, et je vous écoute tout le temps, vous inquiétez pas, c'est au top.
Vous écoutez Maître Serran tout le temps, vous avez raison. Merci, ouais, Samia.
Ça nous apprend.
Même
merci
le samedi,
beaucoup.
Même le samedi.
Ça nous informe, ça nous informe.
Merci, Samia.
Merci, Samia.
Merci beaucoup.
Maître Serran était très inquiet de savoir si les auditeurs
oui, c'est vrai.
Seraient là le samedi.
J'ai vu votre
inquiétude. Ouais, ouais. Et...
Une panique même.
Oui, ouais, ouais. Et je partage.
Mais j'entends bien.
Vous êtes aussi bon le samedi que le vendredi.
C'est vrai?
Ouais.
Bon, bah écoutez.
Je me demande même si vous n'êtes pas meilleur.
Ah, bah, j'ai failli le rajouter. Ouais.
Alors que Tarek, il est là le samedi, c'est pas...
Ouais, mais bon... On va pas le décrire physiquement quand il est le samedi matin, mais voilà, on peut comprendre. On peut comprendre. Voilà. Mais là, c'est marrant ce qu'il dit, tu vois.
C'est ça le talent, Maître Serran. Vous verrez aussi un jour, vous aurez du talent.
J'espère.
01 53 48 3000, si vous voulez interroger Maître Serran. D'abord, Tarik, là, il y a de la pub. Ouais. Et après, il y a les auditeurs qui interrogent Maître Serran. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, Maître Serran qui est avec vous et qui répond à vos questions 01 53 48 3000. Et tout à l'heure, nous retrouverons l'imam Abdelali Mamoun. Inch'Allah.
Inch'Allah.
Voilà. Pas de nouvelles de l'imam. Hein.
Non.
Non non.
Non. Bah, bon. On se téléphone pas la semaine. Mais je crois qu'il est toujours en plein déménagement, non?
Ça finit jamais son déménagement.
Ça fait 3 mois qu'il est en déménagement.
Ça finit jamais. Bachir est avec nous. Bachir, bienvenue.
Oui, bonjour Philippe.
Ah, il faut bonjour, dire bonjour Bachir Ahmed Serran, parce que là, sinon...
Oui, j'ai une question à vous poser concernant ma mère.
Alors, on y va, on vous écoute, Bachir.
En fait, ma mère, elle a vécu en 69 à 75. Moi-même, je suis une enfant, et ma soeur...
Alors, attendez, parce que Bachir, on a des soucis. Vous avez le haut-parleur, peut-être, ou le kit main libre?
Ouais, c'est ça, ouais.
À enlever.
Allez. Et là, c'est mieux?
Ah, bah, c'est formidable. Alors, on ouais. reprend... vous parlez de qui? De votre mère?
De ma maman, elle a vécu en France de 69 à 75. Ouais. Moi-même, je suis né en France, mon grand frère et ma sœur, on est en France. Ma mère, elle est en Algérie. Elle est repartie en Algérie en 75. Et bon, j'ai perdu, elle est veuve, hein, en fait, j'ai perdu mon père. Et chaque fois qu'elle sollicite des visas, elle a eu des visas de en tant que touriste. Un an, 90 jours. Moi, ma question, je voulais savoir si elle a droit à un visa vie familiale et d'installation ou visite familiale. Et...
Elle peut le solliciter, mais avoir le droit, ouais, il n'y a pas un droit, il n'y a pas un texte qui dit que, compte tenu de la situation, moi, État français, je vais vous attribuer un visa, comme vous dites, vie familiale. Donc, elle peut
Est-ce qu'elle peut y prétendre?
Ouais, elle peut y prétendre, encore une fois, à partir du moment où, contrairement à l'auditrice précédente, votre maman a vécu sur le territoire français, donc vous nous dites jusqu'en 1975, donc elle pourrait sur cette base là et puis le fait encore une fois d'être isolée au pays, le fait d'avoir des enfants sur le territoire français, des enfants qui s'engageraient évidemment à la prendre en charge et à s'occuper
Ressources, hein, Matt. Elle a ses ressources, elle a la retraite de mon père et tout, hein.
D'accord, mais ça lui permettrait d'être autonome, c'est-à-dire d'avoir un appartement, ou alors elle vivrait chez l'un d'entre vous?
Ouais, touche suffisamment sa retraite, la reconversion, il y a pas de.
Ce sont des éléments importants. Alors même quand on a ces revenus, c'est toujours bien de préciser que le ou les enfants sont ou seraient là évidemment pour.
Oui, bien sûr. Voilà, nous-mêmes, on travaille, ouais.
Voilà, bon, ça c'est une bonne chose. Donc elle peut évidemment solliciter un visa à long séjour, un visa d'installation maintenant. Je vais être clair avec vous, la probabilité pour qu'elle puisse l'obtenir, elle est infinitésimale. Les autorités françaises ne délivrent quasiment plus de visas de cette nature. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire qu'en cas de refus, il faudra saisir la commission de recours contre les refus de visa, donc qui est située à Nantes. Et la commission de recours, si elle va dans le sens de votre maman, elle va inviter les autorités consulaires à lui remettre un visa. Et puis, si elle garde le silence ou si elle refuse, il faudra saisir le tribunal administratif de Nantes. Mais en mettant en avant aussi, encore une fois, tous ces éléments-là, en mettant en avant le fait que des visas court séjour lui ont été accordés, donc ce sont des éléments qui plaident en sa faveur.
Sachant qu'actuellement, elle a fait une demande, elle a eu une réponse positive. Comme d'habitude, elle n'a jamais été refusée. Hein. un an de 90 jours de.
Ouais.
Voilà, pour ça, il n'y a pas de.
Bah ça, c'est déjà une bonne chose. Elle n'est ouais. pas, comme on dit, blacklistée. C'est-à-dire qu'elle a toujours
non,
respecté.
Jamais. Elle n'a jamais été refusée.
Voilà, le timing. Bon,
elle, ça, elle a quel âge, votre mère?
Elle a 74 ans.
Ah ouais. Souvent, c'est des âges où ils commencent à blacklister, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, parce que très souvent, on considère que la personne qui va arriver sur le territoire français va pas repartir.
Mais par contre, ils m'ont demandé des éléments complémentaires, parce que c'est moi, je lui ai fait l'hébergement, mes fiches ouais. de paye, mes impôts, tout ça. Hein. C'était en plus. Hein.
D'accord. Alors, ce qui, voilà, il n'y a rien de surprenant. Hein. Il faut savoir que, en dehors, j'allais presque dire, d'une liste officielle, les autorités ont la possibilité, ont le droit, en tout cas, de demander davantage de précisions. Après, vous savez, il y a que deux options. Soit c'est une demande de visa long séjour, et puis en cas de refus, vous contestez. L'inconvénient de ça, c'est que si moi, autorité française, j'ai refusé un visa long séjour. Il est certain que la prochaine fois que votre maman va solliciter un visa court séjour, j'aurai tendance à lui dire non. Au motif que, je vais me dire, si elle vient sur le territoire français, cette fois-ci, elle partira pas. Donc, vous voyez, il y a ce risque-là.
Ouais,
et puis, très souvent, c'est ce qu'on disait à l'auditrice précédente, très souvent, vous avez des personnes qui viennent avec le visa court séjour et qui se maintiennent sur le territoire français, et à partir de là, c'est l'autorité préfectorale qui est seule compétente pour traiter son dossier. D'accord. Donc il y aurait cette option-là, mais c'est un peu...
Il y a des chances, c'est possible ça.
Alors, ce qui plaît dans votre faveur, encore une fois, c'est le fait que votre maman ait déjà connu le territoire français. Ce qui plaît dans sa faveur, c'est le fait d'abord... qu'elle a un certain âge et qu'elle est seule au pays, que ses enfants sont sur le territoire français, que ce sont des enfants qui sont prêts à s'occuper de leur mère. Donc voilà, il y a quand même matière à alimenter le dossier. Mais pour que les choses soient claires, entre le moment où, si demain elle est sur le territoire français, elle veut déposer un dossier auprès des autorités préfectorales, entre le moment où on saisit la préfecture le moment où le tribunal administratif, qui sera à un moment ou à un autre saisi, rend une décision, il faut psychologiquement que votre maman se prépare à un timing d'un an et demi, deux ans quand même.
Oui, oui, oui.
Voilà, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que...
Voilà.
Donc, c'est-à-dire qu'elle doit rester ici, mais si demain, il y a une quelconque urgence ou un coup de blues, elle veut retourner au pays, vous imaginez bien que les autorités françaises ne lui permettront plus jamais de revenir en France.
Ouais.
Voilà, donc c'est parfois compliqué à gérer, hein, cet aspect-là.
Ok, maître.
Voilà.
Merci à vous.
Voilà, merci pour votre appel.
À bientôt. Allez, au revoir, merci.
Au revoir. Est-ce qu'on a du temps, Tariq? On a 5 minutes. On va accueillir alors Karim de Montreuil, qu'on va peut-être récupérer. Ah. Karim.
Allô, bonjour.
Oui, bienvenue. Vous avez 5 minutes avec Maître Serral.
D'accord. Bonjour, Monsieur Philippe. Bonjour, Monsieur Maître.
Bonjour,
Karim. Voilà, j'ai une question. Je vais commencer par la fin direct. Comment on fait pour avoir un rendez-vous à la future de Bobigny pour déposer un dossier pour...
C'est une vraie question, puisque ça ne concerne pas que la préfecture de Bobigny. Le système fait que on doit prendre rendez-vous via Internet. Vous allez sur leur site. Un site dédié, mais dédié à quoi? C'est une vraie question, puisqu'à chaque fois que vous essayez d'obtenir un rendez-vous, vous avez un petit mot qui dit que les plages de rendez-vous sont saturées, donc merci de tenter de vous reconnecter. Ça peut arriver, sauf que quand vous faites ça quasiment tous les jours, vous avez tout le temps la même réponse. On se pose quand même la question de savoir si tout ça n'est pas fait sciemment par les autorités préfectorales. Alors quand il faut... À chaque fois que vous connectez, que vous avez cette réponse un peu débile, il faut l'imprimer. Donc vous connectez plusieurs fois dans la semaine, dans le mois, peu importe, mais vous imprimez systématiquement ces éléments-là. Et ensuite, il y a deux options. La première option consiste éventuellement à saisir le juge du tribunal administratif, en l'occurrence, là ce serait Montreuil, en référé. C'est une procédure d'urgence, c'est-à-dire pour dire au juge, attendez, moi j'essaie de prendre des rendez-vous depuis X temps, j'ai toujours la même réponse. Et le juge peut obliger la préfecture à vous donner un rendez-vous. Donc, c'est d'accord. une procédure de référé. Et puis, voilà, si vous ne voulez pas faire de procédure de référé, vous pouvez saisir la préfecture directement avec la bonne vieille lettre recommandée avec accusé de réception. Et vous mettez dans ce courrier toutes les copies, les captures d'écran pour dire si je vous saisis par écrit, c'est que votre système Internet manifestement ne fonctionne pas. Et à partir de là, on revient sur des délais assez classiques. Les délais classiques, c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où j'ai saisi la préfecture par écrit, elle a un délai de 4 mois pour revenir vers vous. Si au bout de 4 mois, j'ai pas de retour, on considère que c'est un refus implicite. Ça veut dire que je ne vous réponds pas, je vous envoie même pas de courrier. À charge pour vous, monsieur, au bout de 4 mois, dans ce cas-là, de saisir le juge du tribunal administratif. Mais il faut justifier, vous avez tenté de faire les démarches via Internet. Ouais.
Ok, maître, mais par contre, en fait, c'est pour mon frère, en fait, et lui, là, ça fait quoi ? Ça fait 5 ans ici, il est marié, il a des enfants, et il travaille, il a les fiches de paye, tout ça. Du coup, un jour, il l'a arrêté, tout ça, il l'a mis un kit.
Tu l'as contesté ?
On l'a pris à l'avocat. Ah, pardon ?
Il l'a contesté ? Son obligation ?
Oui, on l'a pris, déjà, il a un avocat, mais le jour qu'ils l'ont pris au garde à vue, tout ça, ce l'avocat-là, il n'a même pas manifesté pour le faire, tout ça. C'est moi qui ai à court, gauche-droite pour, du coup, pour ce truc. Et après qu'on est sorti, on est parti voir le maître dans son bureau, il l'a fait, comme quoi, il a fait le nécessaire à la future de bobinet, mais ça fait presque un an et demi, et il n'a pas eu le rendez-vous. Il a fait tous les trucs.
Ah non, faut faire attention. C'est-à-dire que, lui, il y a deux choses. Soit vous le faites par Internet, si on vous le donne, si vous avez de la chance, tant mieux. Mais si ça marche pas, c'est pas un an et demi. C'est-à-dire que vous envoyez un recommandé à la préfecture. Si au bout de 4 mois, il n'y a pas de retour, il faudra penser à saisir le tribunal.
Alors, pour plus d'informations, on arrive à la fin de l'émission, on va être coupé. Notez le numéro de Maître Serran. Allez-y, Maître Serran.
Joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Bien.
D'accord, merci.
Merci, Karim.
Merci,
vous
Karim.
Appelez Maître Serran après l'émission. L'imam Abdelali Mamoun est dans la place. Donc, c'est plutôt bon signe. Il devrait être là dans un instant pour l'islam au présent.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.